Alors, la collection Ethnologie de la France, peut-être d'abord signaler que s'agit de 63 livres publiés en 32 ans, puisque cette collection a été créée. Le premier livre est sorti au tout début 1984. Donc, ces 63 livres se divisent un petit peu. Il y a deux sortes de collections, des monographies, plus des livres qu'on appelle des livres d'auteur, et puis des ouvrages collectifs qui sont issus de programmes de recherche. Alors cette collection, on m'a demandé de la créer quand je suis rentrée au ministère de la Culture en 1983. On m'a demandé de la créer pour présenter les premiers résultats des recherches sur appel d'offres lancées par la mission du patrimoine ethnologique. Alors un petit retour en arrière, j'avais travaillé en 1979 pour réaliser à la demande d'un groupe de travail mêlant chercheurs et gens du ministère de la Culture, direction des patrimoines, et dirigé par Isaac Kiva, qui travaillait au laboratoire d'anthropologie sociale. Donc Isaac Kiva avait l'idée de développer la recherche anthropologique sur la France, et pour ça, m'avait demandé de réaliser un inventaire de tous les travaux qui étaient menés en France dans cette discipline. Alors à la fois les travaux menés par des chercheurs, par des enseignants, par des spécialistes travaillant parfois dans des associations, et de aussi savoir ce qui se faisait dans les musées à caractère ethnographique, voilà, laboratoire de recherche, musée, société savante, etc. Donc j'ai réalisé cet inventaire qui parlait non seulement recenser eux leurs coordonnées, mais leurs travaux, sur quoi mener leurs travaux, c'est-à-dire pour les chercheurs, voilà, développant leurs termes de recherche. Et pour les musées, par exemple, les collections qu'ils conservaient. Voilà, donc c'était à peu près 2000 personnes et organismes dans ce répertoire. La mission est donc créée en 1980, un peu sur le modèle de ce que faisait la recherche au ministère de la Recherche, la DGRST, c'est-à-dire donc de lancer des appels d'offres sur des programmes bien précis, sur des thèmes. Alors les quatre premiers thèmes, les quatre premiers appels d'offres, se sont portés sur le choix de thèmes en fonction d'une part de travailler sur la France, sur les aspects les plus modernes, entre guillemets, contemporains, bien que en ethnologie, puisqu'on travaille sur le vivant, il s'agit toujours de contemporains, bien sûr, mais sur les aspects les plus modernes, c'est-à-dire l'urbain et l'industriel, et puis de développer ici en France des recherches sur les aspects plus traditionnels de l'anthropologie qu'on disait alors exotique, c'est-à-dire sur les pays lointains. Alors, ce fut les savoirs naturalistes populaires, c'est-à-dire les relations de l'homme à son environnement, l'homme à la nature, l'homme avec l'animal, l'homme avec les plantes, et puis le thème classique aussi de la parenté. Donc, c'est l'appel d'offres famille et parenté. Au bout de 2-3 ans, les premiers résultats nous sont parvenus. Il y a eu une grande réunion avec les chercheurs qui étaient financés dans le cadre de ces appels d'offres. Puis bon, on lançait ces thèmes, les chercheurs répondaient, le monde de la recherche répondait, et ces thèmes et ces dossiers étaient sélectionnés par le conseil scientifique. Voilà, donc, et puis ces chercheurs étaient financés, ils devaient nous remettre un article et un rapport de recherche. En 1982, donc première réunion, donc c'était en fait 2 ans après, et les chercheurs ont eu envie de connaître les résultats, les premiers résultats qui nous étaient parvenus de tous ces travaux. Et à ce moment-là, on m'a demandé, Elisabeth Fleury qui dirigeait la mission, m'a demandé si ça m'intéresserait de créer un bulletin, un journal, enfin quelque chose pour publier ces résultats. Donc, oui, ça m'intéressait en effet. Et ce fut la création de la revue Terrain, parce qu'il m'a semblé plus intéressant de faire une revue, quelque chose qu'on garde, que pas qu'un bulletin qu'on risquait de jeter. C'était pas très, ça me passionnait pas beaucoup. Donc la revue, je suis entrée en janvier 83. Le premier numéro de Terrain de la revue Terrain est sorti en octobre 83. Et parallèlement, on a fait une convention de coédition avec la Maison des Sciences de l'Homme. Clément Seller était intéressé par créer une collection, qu'on a donc appelée Ethnologie de la France, et qui devait comprendre 2-3 livres par an. Donc les livres ont vraiment reflété ces thèmes de recherche, et même au-delà, puisque après, on a ouvert la collection aussi à des chercheurs, à des auteurs non financés dans le cadre d'appels d'offres, hein, puisque d'abord il y avait moins d'argent, moins de recherche, qu'une recherche prend 3 ans. Donc les recherches étaient publiées aussi sous forme d'articles dans la revue Terrain, qui elle aussi s'est ouverte à d'autres chercheurs, hors des thèmes d'appel d'offres qui ne suffisaient pas à nourrir 2 numéros par an. Et puis, il n'y avait pas de raison de refuser à des gens, sous prétexte qu'on ne les finançait pas, de refuser de les publier. Voilà, donc la collection est devenue une vraie collection, mais centrée sur la France. Dès le départ, il me semblait que cette collection devait pouvoir toucher un public plus large que celui des seuls spécialistes. Donc, pour ce faire, il était important d'éviter tout jargon dans la rédaction des textes. Enfin, éviter tout jargon. Ce sont des sciences humaines, on ne va pas dire que c'est des romans policiers. Ça ne se lit pas comme des romans policiers. Quoique certains se lisent vraiment très bien. Mais quand même, éviter donc le jargon. Illustrer, faire des couvertures attractives, illustrer les ouvrages autant que possible, quitte à faire nous-mêmes des photos. J'ai parfois été prendre des photos même au sein de ma famille pour illustrer certains ouvrages. La base même, puisque c'était un complément aussi pour moi de la revue Terrain, c'était comme la revue Terrain, évidemment s'appuyait sur des recherches de terrain, parce que c'était ce qu'on finançait. Donc ce ne sont pas des ouvrages uniquement théoriques, ce sont toujours des ouvrages qui se basent sur une recherche de terrain, c'est-à-dire une recherche longue, minutieuse, en insertion, mais qu'il ne soit pas uniquement descriptif pour autant, c'est-à-dire qu'il apporte un intérêt théorique, travaille sur une question théorique plus large et qui mêle comme ça analyse, interprétation et données de terrain. Donc ça, c'est très important, toujours des études de cas concrètes. Et des sujets qui, en fait, se révèlent très variés quand on regarde le catalogue de la collection, puisqu'il s'agissait de... On a financé vraiment des recherches et les chercheurs se sont mis à travailler vraiment sur les aspects les plus divers de la société, ceux qu'on parfois on pense les mieux connus, mais en fait ça me permettait, ces études fines, de mettre au jour les mécanismes, les croyances qui sous-tendent nos pratiques. Pour des chercheurs, il est évident qu'il faut publier. Financer des recherches, faire des recherches si elles ne sont pas publiées, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et les publier tant qu'à faire pour un public le plus large possible. Donc faire connaître ses travaux. C'est pour ça qu'il est important qu'il n'y ait pas de trop de jargon, que ça puisse aussi atteindre, même si des livres théoriques peuvent avoir droit à du jargon. Mais là, ils s'adressent vraiment à leurs condisciples, si vous voulez. Mais quand on veut toucher un autre public, il faut éviter ce jargon et il faut faire savoir ce qu'on a publié. Donc j'ai pris à ce moment-là, au début, j'ai pris un petit peu mon bâton de pèlerin pour aller voir des journalistes. Et pour leur montrer le travail de cette collection, ce qui était publié. Et ils ont jugé en effet que les thèmes pouvaient intéresser leur public, notamment les journalistes du Monde, Libération, Le Figaro Magazine, évidemment, le livre sur la bourgeoisie, il y a eu beaucoup de retombées. La presse régionale, la presse écrite et parlée, bien sûr, donc les radios. Donc il y a aussi beaucoup d'échos, il y a eu beaucoup d'échos dans les radios. Donc ça me paraissait vraiment très précieux pour vraiment atteindre ce public différent. Il me paraît important de dire que cette collection et la revue ont fait évoluer les recherches sur la France et la discipline ethnologique en France par le fait qu'elle travaillait précisément sur des objets à la fois sur des thèmes universels, si vous voulez, sur des objets très peu attendu à l'époque, donc comme l'urbain, l'industriel, le football, il y en a bien d'autres. Donc c'était vraiment une manière de faire évoluer le regard des Français sur leur société. Et notre regard à nous, mon regard à moi, éditeur, j'ai appris beaucoup de choses, et le regard donc du public sur sa société, sur ce qui l'entourait. Donc ça, c'est vraiment le rôle des sciences humaines, me semble-t-il. Et là, l'ethnologie le remplit très bien quand elle travaille sur ses propres sociétés aussi. Dans la diffusion, il ne faut pas oublier la diffusion à l'étranger, parce que de ne pas rester dans le milieu franco-français. Lors d'un grand colloque international européen, en fait, au Portugal, j'avais rencontré une ethnologue norvégienne qui m'avait dit que ce n'était pas grave, enfin, on parlait en anglais, que ce n'était pas grave qu'elle ne lise pas le français, puisque rien d'intéressant en ethnologie se faisait en France. Donc ça m'a piqué au vif, et j'ai décidé à ce moment-là qu'il fallait faire traduire des ouvrages de la collection. Donc j'ai choisi 3 ouvrages, et j'ai été voir la responsable des éditions de la collection d'ethnologie des presses de Cambridge, en Angleterre, Jessica Cooper, et je lui ai apporté ses ouvrages avec des comptes rendus de presse, etc. Et je lui ai dit que ça serait important si elle pouvait les faire traduire et les publier en anglais. Donc elle les a fait évidemment évaluer, ça a pris du temps, etc. Mais ça a marché, ça a été traduit en anglais, ainsi que le livre sur les tziganes par les presses de Chicago. Et donc j'ai commencé à mener une politique très volontaire de diffusion des recherches menées en France, à la fois en faisant traduire des ouvrages et en faisant connaître aussi ce qui se faisait en France. Donc ça a été traduit en italien, en espagnol, en portugais, en chinois maintenant, en espagnol du Mexique, pas seulement de l'Espagne, etc. Mais c'était aussi important de faire connaître, d'amener les chercheurs, d'organiser des journées avec des collègues étrangers. Donc j'ai fait toute une série, à un moment j'ai dû organiser toute une série de conférences avec l'aide des instituts culturels français à l'étranger et des universités étrangères. Ainsi, j'ai organisé 5 conférences à Cambridge et Londres avec des auteurs de la collection. Donc c'était à la fois des conférences dans le département d'anthropologie de ces deux universités, Cambridge et Londres, et aussi dans l'Institut français à Londres. Ça a été aussi organisé avec la Maison des cartes d'Amsterdam et l'Université d'Amsterdam, avec la Casa de Velázquez à Madrid, qui est l'Institut français de Madrid, et l'Université de Madrid. Ça a été aussi organisé à Lisbonne, ça a été aussi organisé à Rome, par exemple, avec l'École française de Rome. Voilà, donc ça, c'était le but, de faire connaître les choses en français à un collègue étranger et de faire traduire les choses françaises à l'étranger. Et au-delà de ça, c'était aussi publier des auteurs étrangers, évidemment, pas que des chercheurs français. Donc dans la revue, il y a une grosse part de traduction d'articles commandés à des chercheurs étrangers. Donc ce sont beaucoup d'anglophones, bien sûr, des Américains, des Anglais, mais aussi des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Allemands, etc. Donc il y a aussi l'autre côté, traduire et publier des auteurs étrangers. Dernier point que je voulais peut-être préciser sur cette collection, enfin qui est intéressant à propos de la collection, c'est comme ça apporte des savoirs nouveaux et sur des questions qui sont souvent, ou des domaines qui sont, parfois on a des a priori ou des croyances très stéréotypées. J'ai créé un blog à la suite d'une intervention de Sarkozy à Grenoble. Il avait fait parler des tziganes de manière assez peu informée, me semblait-il. Et j'ai pensé à l'ouvrage de Patrick Williams, dont je vous ai parlé, nous on n'en parle pas, sur les manouches en France. Et aussi à d'autres recherches que j'ai publiées dans la revue Terrain sur des tziganes en Hongrie notamment. Et j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de données justement sur les tziganes et des connaissances pour le coup vraiment informées. Et que ça serait intéressant de les mettre à la disposition du public, d'en faire un rappel si vous voulez. Et donc j'ai créé ce blog qui s'appelle « Questions de société, le regard des ethnologues » pour justement montrer que les ethnologues traitent de questions de société et faire un renvoi sur leurs livres. Donc là, il y a un blog qui existe depuis, je ne sais plus si 4 ou 5 ans, qui avait jusqu'à mon départ en retraite l'an dernier, en tout cas 2 billets nouveaux par semaine, liant des questions d'actualité, ça peut être aussi l'actualité culturelle, avec des ouvrages ou des articles parus dans la revue ou dans les livres collectifs de la collection. Voilà, et renvoyant aussi sur les blogs ou les sites d'institutions travaillant dans ce domaine. Pour conclure sur ce travail de 32 années de publication, d'édition de sciences humaines, parce que bon, c'est peut-être moins sensible dans la collection, ça l'est plus dans la revue, c'est que c'est pas seulement l'ethnologie, c'est aussi l'histoire, c'est aussi la philosophie, c'est aussi la psychologie, c'est aussi bien sûr la sociologie. Les frontières sont ténues hein, dans ces disciplines quand on étudie notamment la France ou l'Europe. Donc, en fait, c'est un apport énorme à la connaissance de notre société pour lutter contre les stéréotypes, les poncifs, la peur qu'on éprouve à l'égard de ce qu'on ne connaît pas, donc à l'égard de l'autre. Donc, je pense que les sciences humaines sont absolument indispensables et que le travail des ethnologues, par le fait qu'ils étudient très finement et qu'ils montrent comment vivent ces gens qu'on pense si différents, quand ils les montrent de près, on voit qu'ils sont évidemment pas tellement différents et que on a beaucoup à échanger avec eux et à apprendre d'eux et surtout à vivre ensemble. Donc je pense que c'est sans doute ce qui est le plus passionnant dans l'édition de sciences humaines et au-delà bien sûr dans les sciences humaines.